RCF.
On a le sentiment, Marie-Laure Chaïeb, quand vous nous parlez d'Irénée, qu'il n'est pas dans un esprit de condamnation de ceux qui prétendent connaître l'ensemble de la vérité ou l'interpréter d'une manière qui n'est pas conforme à celle que l'Église enseigne. Il n'est pas dans cet état d'esprit, Irénée. C'est pas quelqu'un qui est contre, qui condamne, qui voit dans l'autre quelque chose de mauvais.
Ah, ouais, je crois que vous avez tout à fait raison. Bien sûr, son objet, c'est d'éviter que les fidèles ne suivent les gnostiques. Donc là-dessus, il est très clair. Il y a un danger visible, identifié, et il cherche vraiment à, pas forcément à ramener les fidèles à l'intérieur de la communauté, mais surtout à éviter qu'ils s'en sortent. Donc c'est un objectif clair. Ceci dit, il n'est pas effectivement dans cette posture de la confrontation. Si les gnostiques ont une spiritualité, comme on le disait, de la séparation, lui cherche plutôt à dire, mais pourquoi toujours opposer les choses? Je vais prendre un exemple qui est vraiment frappant, parce que les gnostiques se présentent donc comme les super connaisseurs de Dieu. Et ils se considèrent aussi comme une forme d'élite intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils sont très très méprisants. Ils considèrent qu'il y a trois catégories d'hommes. Il y a des hommes qui ne valent pas la peine de s'en occuper, des espèces de rustres. Eux, qui sont l'élite supérieure, et puis une espèce de catégorie un peu informe, au milieu, intermédiaire. Et évidemment, leur objet aux gnostiques, c'est de faire découvrir à ceux qui font partie de l'élite qu'ils en font partie. C'est un peu complexe, mais Irénée dit, mais pourquoi? Il aurait pu dire, bon, la foi, ce n'est pas de l'ordre de cette intelligentsia qui se prend pour une lumière qui vient avec orgueil décréter que, voilà, ils ont la vérité. On peut tout à fait imaginer, par réflexe inverse, de dire, puisqu'ils ont l'intelligence, ils ont capté en quelque sorte l'intelligence de leur côté, ben nous allons dire que la foi, elle est d'un autre ordre, elle est liée au sentiment, elle est liée à...
C'est pas le raisonnement qu'il tient.
Et non, c'est tout à fait l'inverse. Il refuse que les gnostiques captent l'intelligence. On peut être chrétien et intelligent. C'est une bonne nouvelle.
Oui.
Et au contraire, dans son œuvre, il réclame en quelque sorte que les chrétiens prennent en main la recherche de leur foi. Il a tout un long passage dans le livre 1 où il développe en fait toutes les questions qu'il se pose lui et qu'il pose aussi à la communauté. Pourquoi est-ce qu'on a des paraboles? Pourquoi est-ce qu'il y a des passages difficiles à comprendre? Quel est le rapport entre ce passage de l'Ancien Testament et ce passage du Nouveau? Enfin, il pose des questions avec des pourquoi et des comment. Et il incite les chrétiens à rechercher comment rendre compte de leur foi. Ça, c'est être disciple.
Et on a le sentiment que, finalement, la diversité ne l'inquiète pas plus que ça. Est-ce qu'il y voit même, on peut dire, une forme d'intérêt, de richesse, d'obligation à pousser le raisonnement, la réflexion, à chercher?
Exactement. Et du coup, si on reste sur cet exemple, pourquoi dire que la foi ne relève que de l'intelligence ou que du sentiment si on peut aller avec les deux? En fait, sa méthode, c'est d'aller contre cette image de « ou » et d'essayer de toujours refaire la cohérence avec le « et ». La foi, c'est de l'ordre et du sentiment et de la rencontre et aussi de l'intelligence. Pourquoi séparer, puisqu'on peut y aller des deux côtés?
Il estime que les deux se nourrissent.
Exactement. Il donne une vraie spiritualité, assez paradoxale, hein, qui essaye de tenir compte de la vie telle qu'elle est. La vie, c'est divers, c'est foisonnant, c'est... Et au lieu d'essayer de trier, eh ben, il pense et il pousse les chrétiens à aller vers Dieu avec tout ce qu'est la vie dans toute sa diversité.
En quoi est-ce que c'est évangélique, ça?
On peut prendre un deuxième exemple pour répondre à votre question. Les gnostiques, évidemment, sont dualistes. Avec ce qu'on vient de dire, vous voyez, voilà la logique, hein. Ils opposent l'âme et le corps de façon radicale. Irénée dit, mais pourquoi opposer? On va à Dieu avec tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné, bien sûr, notre âme, mais aussi notre corps. Vous voyez ce « ou » qui devient un « et » mettre en perspective les éléments vivants, les éléments foisonnants. Alors, je pense que ça, c'est vraiment évangélique.
Il y a quelque chose d'assez simple, finalement, dans sa manière d'envisager la foi chrétienne?
Je ne sais pas. Je pense que c'est simple d'être dualiste. Je pense que c'est rassurant d'être dualiste. Je pense que le 0-1-0-1 est assez spontané à l'homme. Et qu'en fait, ça demande un effort de tenir compte. Et c'est un scoop. C'est chez Irénée en premier qu'on trouve l'expression de François « tout se tient ».
Ah
oui. Je ne sais pas si le pape François le sait.
Tout est lié.
Tout est lié où tout se tient. Ouais. Ça se trouve dans l'œuvre d'Irénée.
Malgré les ambiguïtés, les paradoxes dont on est fait, dont la vie est faite, voilà. Les apparentes oppositions, contradictions.
Irénée ne craint pas ça. Irénée ne craint pas la diversité parce que c'est la vie. Et donc, puisque ça, c'est la vie qui nous est donnée, ben, on va à Dieu avec tout ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être un peu plus difficile que spontanément de séparer, de dire, voilà, il y a deux voies.
De faire du tri.
Voilà, de trier, sans doute.
En quoi, Marie-Laure Chaïeb, les quatre évangiles viennent-ils illustrer ce que vous venez d'expliquer, à savoir la diversité ? Parce que les exégètes sont parfois bien embêtés avec ces quatre récits de la vie de Jésus qui ne sont pas toujours, eux, très cohérents entre eux. Ah, parfois, il y a des choses qui ne collent pas quoi, en termes de timing et de lieu géographique.
Alors justement, ça c'est une belle illustration en fait de la vie, c'est la diversité. Et Irénée, en arrivant à Lyon, est sans doute, alors après à vérifier autant que possible, on n'a pas d'autres traces, mais sans doute celui qui a amené avec lui, puisqu'il avait été formé par Polycarpe, disciple de Jean, c'est sans doute lui qui a amené l'évangile de Jean jusqu'en Gaule. Probablement. L'évangile de Jean, il faut savoir qu'il était un peu moins bien reçu que les autres dans le bassin méditerranéen. L'évangile de Matthieu s'est répandu très facilement, très rapidement. Les autres également. Les synoptiques semblent assez vite répandus dans
les
communautés.
Donc les synoptiques, ce sont les évangiles de Marc Matthieu et Luc.
Voilà, qui sont un peu plus concordants entre eux, même s'il y a évidemment quelques différences. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que Irénée, en apportant Jean en plus, est le premier à dire qu'il ne faut surtout pas choisir, puisque en fait, la révélation, elle passe dans ses interstices qui font les différences entre ces évangiles. Vouloir les réduire, il y a un des disciples de Justin, juste avant Irénée, qui l'a fait, qui a compilé les quatre évangiles en une version de poche, on va dire, pour missionnaire. C'est pratique en même temps. Puis ça a eu beaucoup d'impact, puisque ça a permis d'évangéliser beaucoup de communautés, notamment en Orient.
Mais donc ça oblige à évacuer un certain nombre de choses.
Et à gommer les caractéristiques propres, ce qui fait la vie propre de chacun des évangiles. Alors, au contraire, Irénée va dire qu'il faut garder les quatre et que c'est par les interstices de vie qu'on peut ressentir la rencontre que chaque évangéliste a faite, particulière forcément et spécifique, avec le Christ. Donc il ne faut surtout pas les gommer. Et en fait, c'est le premier, Irénée, à mettre en relation ces quatre évangiles avec les fameuses figures qui sont devenues courantes dans la symbolique architecturale, ou les fameux quatre vivants hein, qui sont dans l'Ancien Testament, donc Ézéchiel ou le livre de Daniel. Donc l'homme, le taureau ou le bœuf, l'aigle et puis le lion. Et Irénée les met en relation en disant, vous voyez encore cette histoire de cohérence pour ne pas séparer entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament attend et annonce le Nouveau accomplit et va au-delà des promesses. Il met en relation les quatre évangiles avec les figures des quatre vivants. C'est magnifique à creuser ça et à se nourrir de cette idée. Notre évangile n'est pas enclos dans un texte.
Comment ça peut aider l'Église actuelle qui est chahutée quand même par un certain nombre de scandales, de difficultés, de crises, et qui en elle-même vit des tensions?
Il me semble que là, Irénée peut être un bon repère. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision un peu romantique des origines chrétiennes, en disant que les premières communautés chrétiennes avaient toutes les chances de leur côté, puisqu'elles étaient tout près de la source, que c'était simple à l'époque. Ce qu'on voit dans l'œuvre d'Irénée, c'est que c'était pas simple. Et je fréquente ce deuxième siècle depuis un certain temps, tout aurait pu s'arrêter. Le moment où on passe du témoignage des apôtres à des gens qui n'ont pas connu le Christ, Ce sont des moments charnières absolument effrayants. Enfin, et puis ensuite, peu à peu, la disparition des premiers témoins, des disciples vivants des apôtres. Cette disparition progressive et puis le fait que les communautés étaient aussi diverses que possible, avec des tendances plutôt judéo-chrétiennes ou des tendances plutôt pagano-chrétiennes, des cultures très variées, très éclatées. On n'est pas si loin de nos situations. Irénée connaît aussi les problèmes de l'incompréhension venant du monde extérieur, puisqu'on sort à peine de la persécution de Lyon dont on a parlé. Donc en fait, les relations extérieures sont difficiles, les relations intérieures sont difficiles, et en plus, il y a les déviances qui viennent semer de la discorde en fait, entre les fidèles qui peuvent être tentés de s'écarter. Donc,
ça fait quand même écho à ce que...
Ça nous parle.
Dans une certaine mesure, ouais, ce qu'on vit aujourd'hui.
Et du coup, le positionnement d'Irénée peut être très éclairant pour aujourd'hui. C'est-à-dire surtout de ne pas se braquer dans des confrontations, en fait, dans des situations binaires. On a envie de dire l'identité chrétienne contre, mais est-ce que c'est vraiment productif ? Irénée s'est penché, il a étudié la doctrine des gnostiques pour essayer de voir où était leur logique et pour dire à quel moment ça bascule dans l'erreur. Mais il s'est intéressé, il n'a pas d'un revers de main rejeté les gnostiques en disant « voilà, il n'y a rien qui vaut le coup dans votre doctrine ». Il n'est pas parti en croisade, c'est tout à fait anachronique, mais... Cette posture d'être à l'écoute, de rechercher les arguments, d'essayer d'y répondre et puis surtout d'être constructif. Constructif avant tout.
À demain.
À demain.
Merci.